Chapitre 26. Dimanche 13 décembre, jour de la Sainte Lucie, le matin. Eric se réveille dans son lit étroit à l'hôpital. C'est le milieu de la nuit. Il regarde l'heure sur le téléphone. Bientôt 3 heures. Il prend un autre cachet, puis attend sous la couverture grelottant que les fourmillements se répandent dans le corps et que l'obscurité vienne l'envelopper. Lorsqu'il s'éveille, quelques heures plus tard, il a très mal à la tête. Il prend un calmant, va à la fenêtre et laisse son regard balayer la façade morne et ses centaines de fenêtres. Le ciel est blanc, mais toutes les vitres sont encore obscures. Eric se penche, sent la vitre fraîche contre le bout de son nez et imagine qu'il se regarde depuis toutes les fenêtres en même temps. Il pose le téléphone sur son bureau, puis se déshabille. La petite cabine de douche sent le plastique et le désinfectant. L'eau chaude coule sur sa tête, sa nuque et tambourine contre le plexiglas. Une fois séché, il essuie un peu de buée sur le miroir, s'humecte le visage et étale la mousse à raser. Il s'en met un peu dans les narines et se mouche pour l'enlever. La surface nette du miroir se réduit à un ovale de plus en plus petit à mesure qu'il se rase. Il pense à ce qu'a dit Simone, que la porte était déjà ouverte le soir précédant la fuite de Joseph de l'hôpital. Elle s'était réveillée et était allée fermer la porte. Mais cette fois-là, ça ne pouvait pas être Joseph Eck, comment aurait-ce été possible? Eric tente de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Il y a trop de questions sans réponse. Comment Joseph a-t-il réussi à entrer? Peut-être a-t-il simplement frappé à la porte jusqu'à ce que Benjamin se réveille et vienne lui ouvrir? Eric imagine les deux garçons qui se regardent dans la faible lueur de la cage d'escalier. Benjamin est pieds nus, les cheveux en pagaille. Il porte son pyjama d'enfant et lève des yeux ensommeillés vers le garçon plus grand. On pourrait dire qu'ils se ressemblent, mais Joseph a assassiné ses parents et sa petite sœur. Il vient de tuer une infirmière de l'hôpital avec un scalpel et a grièvement blessé un homme dans un cimetière. Non, se dit Eric, je n'y crois pas. Ça n'a pas de sens. Qui s'introduirait chez eux? À qui Benjamin ouvrirait-il la porte? À qui Simone ou Benjamin confierait-il une clé? Benjamin pensait peut-être qu'Aïda allait venir. Peut-être que c'était elle. Eric se dit qu'il doit tout envisager. Peut-être que Joseph avait un complice qui devait lui ouvrir la porte. Peut-être que Joseph avait prévu de s'évader la veille, mais n'avait pas réussi. Voilà pourquoi la porte était ouverte. C'est ce qui avait été convenu. Eric termine de se raser, se brosse les dents et prend le téléphone sur la table, regarde l'heure, puis appelle Yona.
Bonjour Eric,
répond une voix rauque à l'accent finlandais. Yona a dû reconnaître le numéro d'Eric sur l'écran. Je vous réveille?
Non.
Pardonnez-moi de vous appeler de nouveau, mais... Eric tousse.
Il s'est passé quelque chose?
Demande Yona. Vous n'avez pas retrouvé Joseph?
Nous avons besoin de parler à Simone, d'étudier chaque détail.
Même si vous ne pensez pas que ce soit Joseph qui a enlevé Benjamin?
Non, je n'y crois pas,
répond Yona.
Mais je n'en suis pas sûr. J'aimerais voir l'appartement, faire une enquête de voisinage pour essayer de trouver des témoins.
Vous voulez que je demande à Simone de vous appeler?
Ce n'est pas la peine.
Une goutte d'eau perle à l'extrémité du robinet en inox et tombe dans le lavabo avec un tintement bref, tronqué.
Je continue de penser que vous devriez accepter une protection policière,
dit Yona. Je ne bouge pas du Karolinska, et je ne pense pas que Joseph y reviendra de son plein gré.
Et pour Simone?
Demandez-lui, il se peut qu'elle ait changé d'avis, dit Eric, même si elle a déjà un protecteur.
Oui, je suis au courant,
dit Yona d'un ton amusé.
Pour tout dire, j'ai du mal à imaginer ce que ça doit être d'avoir Kenneth Strang comme beau-père.
Moi aussi, répond Eric.
Je comprends,
dit Yona en riant. Est-ce que Joseph Eck a tenté de s'enfuir avant-hier? Demande Eric.
Non, je ne pense pas, rien ne l'indique,
répond Yona.
Pourquoi cette question?
Quelqu'un a ouvert notre porte cette nuit-là, exactement comme hier.
Je suis presque sûr que Joseph s'est enfui parce qu'il a su qu'il allait être mis en état d'arrestation, et il n'a eu cette information que vendredi soir,
dit Yona lentement. Eric secoue la tête et passe son pouce sur sa bouche. Les carreaux de la cabine lui font penser à du formica gris. « Ça n'a pas de sens, » dit-il en soupirant.
« Vous aviez vu que la porte était ouverte ?»
demande Yona. « Non, c'est Sixan, Simone, qui s'est levée. »
« Peut-elle avoir des raisons de mentir ?»«
Je ne me suis pas posé la question. » »«
Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant. »
Eric regarde ses yeux dans le miroir, tandis qu'il s'efforce une nouvelle fois de reconstituer l'enchaînement des événements. Supposons que Joseph avait un complice censé préparer le terrain la veille du kidnapping. Il a peut-être juste été envoyé pour vérifier que le double de la clé fonctionnait, mais a outrepassé sa mission et s'est introduit dans l'appartement. Il n'a pas pu s'empêcher de se faufiler à l'intérieur et de regarder la famille endormie. La situation lui a procuré un sentiment de domination jouissif et il a voulu leur jouer un mauvais tour en laissant le frigo et le congélateur ouverts. Il a peut-être tout raconté à Joseph, décrit sa visite, la disposition des chambres, qui dormait où. Cela expliquerait que Joseph ne m'ait pas trouvé, pense Eric, puisque la première nuit, je dormais à ma place près de Simone dans le lit. Est-ce qu'Evelyn était toujours au commissariat mercredi ? Demande Eric.
Oui.
Elle y a été toute la journée et toute la nuit ?
Oui.
Elle y est encore ?
Elle a été transférée dans un appartement sécurisé, sous double surveillance.
Elle a été en contact avec quelqu'un ?
Vous savez qu'il va falloir laisser la police faire son travail,
dit Yona. Je fais simplement le mien, répond doucement Eric. J'aimerais parler à Evelyn.
Qu'est-ce que vous voulez lui demander ?
Si Joseph a des amis, quelqu'un qui pourrait l'aider.
Je lui poserai la question.
Peut-être qu'elle sait avec qui Joseph serait susceptible de collaborer. Peut-être qu'elle connaît ses amis, qu'elle sait où ils habitent. Yona soupire et enchaîne.
Vous savez très bien que je ne peux pas vous laisser mener votre propre enquête, Eric. Même si, personnellement, je n'y verrai pas d'inconvénient.
Est-ce que je ne pourrais pas vous accompagner quand vous lui parlerez ? Demande Eric. J'ai travaillé avec des gens traumatisés pendant de nombreuses années et... Le silence s'installe entre eux pendant quelques secondes.
Retrouvez-moi à l'entrée de la direction centrale de la Rikskrim dans une heure,
dit finalement Yona. J'y serai dans 20 minutes.
D'accord, dans 20 minutes,
dit Yona avant de raccrocher. La tête vide, Eric retourne à son bureau et ouvre le tiroir du haut. Au milieu des stylos, gommes et trombones, se trouvent diverses plaquettes de comprimés. Il prend 3 cachets différents et les avale. Il se dit qu'il devrait prévenir Daniela qui ne pourra pas assister à la réunion du matin, puis il oublie. Il sort de son bureau et presse le pas vers la cafétéria. Il boit un café sans s'asseoir, devant l'aquarium. Il suit du regard un banc de néon bleu et leur quête autour d'une épave en plastique. Il emballe ensuite un sandwich dans des serviettes en papier et le fourre dans sa poche. Dans l'ascenseur qui l'emmène au rez-de-chaussée, il aperçoit son reflet dans le miroir, voit un regard vide, un visage sombre, presque absent. Il s'observe et pense à la sensation d'aspiration que l'on ressent au ventre lorsqu'on tombe d'une grande hauteur. Une sensation presque sexuelle, mais en même temps intimement liée à une forme d'impuissance. Il est presque à bout de force. Mais les cachets le propulsent à un niveau supérieur, où la lumière est plus vive et où les contours retrouvent leur contraste. « Il tiendra encore un moment, » se dit-il. « Il doit tenir le coup. La seule chose qu'il ait à faire, c'est de tenir assez longtemps pour retrouver son fils. Ensuite, tout peut s'effondrer. » En se rendant à son rendez-vous avec Yona et Evelyn, Eric essaie de récapituler ce qu'il a fait et les endroits où il s'est rendu la semaine précédente. Il comprend rapidement que ses clés ont pu être dupliquées à plusieurs occasions. Jeudi, sa veste était restée pendue avec les clés dans une poche, sans aucune surveillance, dans un restaurant de Cedermalm. Il l'avait laissée sur la chaise de son bureau à l'hôpital, suspendue à un crochet dans la cafétéria du personnel et dans un tas d'autres endroits. La même chose valait sans doute pour les clés de Benjamin et de Simone. Tandis qu'il traverse le capharnaüm provoqué par les travaux de réaménagement autour de Friedemsplan, il arrive à extirper son téléphone de la poche de sa veste et compose le numéro de Simone.
« Allô ?»
répond-elle d'une voix stressée. « C'est moi. »«
Il y a du nouveau ?»
Il entend un grondement en fond sonore, comme celui d'une machine, puis un silence soudain.
Je me disais juste que vous devriez vérifier l'ordinateur, pas seulement les emails, mais ce qu'il a téléchargé, les sites sur lesquels il est allé, les dossiers temporaires, regarder s'il a chatté et...
Évidemment.
Je ne te dérange pas plus.
Nous n'avons pas encore commencé avec l'ordinateur.
Le mot de passe est Dumbledore.
Je sais.
Eric tourne, emprunte Polemsgatan, avant de descendre sur Kungsholmsgatan, puis longe le commissariat dont il voit les différents aspects. La façade cuivre unie, l'annexe en béton, et enfin le haut immeuble d'origine en crépi jaune.
« Je dois y aller »,
dit-elle. « Simone, dit Eric, est-ce que tu m'as bien dit la vérité ?»«
Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
Sur ce qui s'est passé, que la porte était ouverte la nuit précédente, que tu as vu quelqu'un traîner Benjamin par... »«
À ton avis ?»
hurle-t-elle avant de lui raccrocher au nez. Eric n'a pas le courage de chercher une place libre pour se garer. Une amende n'a vraiment pas d'importance. Il la payera dans une autre vie.
Sans réfléchir, il tourne juste devant le commissariat. Les pneus crissent et il s'arrête près du grand escalier, en face de la mairie. Les phares de la voiture illuminent une jolie porte en bois qui ne sert plus depuis longtemps. L'inscription « Service d'investigation » est gravée en lettres anciennes. Il sort de la voiture, fait le tour du bâtiment et se dirige vers l'entrée du siège de la Rijkskrim. Il voit un père avec ses trois enfants en costume de la Sainte Lucie par-dessus leur combinaison d'hiver. Des couronnes de lumière sont posées sur leurs bonnets. L'un d'entre eux porte une bougie dans sa moufle. Les chemises blanches contraignent les habits épais. Eric se rappelle tout à coup à quel point Benjamin aimait qu'on le porte quand il était petit. Il s'agrippait avec les mains et les pieds et disait « Pote-moi, papa, c'est toi le plus fort !»